Nous venons de chanter Je compte au Dieu sur ta fidélité. C'est une bonne introduction à la suite de ce message sur l'amitié, parce que le livre de Proverbes nous donne ce dicton de sagesse. Beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance, mais un homme fidèle qui le trouvera. Un ami fidèle qui le trouvera. Je compte au Dieu sur ta fidélité. Nous avons considéré la semaine passée le fait que l'amitié nous pousse au cœur même de l'Évangile. Le thème de l'amitié nous fait arriver à l'essence de la bonne nouvelle du Christ, parce que la bonne nouvelle, c'est simplement que Dieu veut faire ami avec des hommes et des femmes pécheurs. C'est ça le salut. Le salut n'est pas simplement une chose impersonnelle qu'on appelle le pardon des péchés, ne pas aller à l'enfer. Le salut n'est pas un endroit. Le salut n'est pas un état personnel de sûreté. Le salut, c'est redevenir ami avec son Créateur. Et donc l'amitié est quelque chose d'éternel qui se trouve au sein de la Trinité avant que l'homme soit. L'amitié est une chose qui a été bien endommagée par la chute de l'homme. Nous voyons dans notre société, nous avons dit qu'il y a peu de gens qui ont un ami vraiment intime et fidèle. Jusqu'au point où nous avons constaté que des livres ont été écrits qui questionnent justement pourquoi est-ce que les hommes, je parle de l'homme par rapport à la femme, les hommes occidentaux sont souvent sans amis dans la société moderne. Nous avons dit que ça, c'est le résultat du péché qui éloigne les hommes les uns des autres, et que l'Évangile, quand le Christ vient nous sauver, il commence à renverser la situation, à nous faire retourner à la possibilité, à la capacité d'être un ami et d'avoir des amis. Et nous avons dit que l'amitié est incroyablement importante. Nous avons vu dans le livre de Proverbes que celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les anciens s'en trouve mal. Et nous avons vu que dans plus d'un cas, un jeune homme ou une jeune femme connaît un point tournant de sa vie à cause du cercle d'amis dans lequel il tombe. Et parfois, c'est pas qu'on choisit des amis par la sagesse de la parole de Dieu, en sachant quelle sorte de personne doit être mon ami, mais on tombe dans un cercle d'amis. C'est eux qui étaient là, c'est eux qui sont venus vers moi, et donc c'est eux qui m'ont embarqué dans un sens auquel j'ai jamais pensé avant de les rencontrer. Ça, c'est le drame d'une amitié mal fortunée, si on peut parler ainsi. Et donc ensuite, nous avons dit qu'il y a différents niveaux d'amitié. On a des amis intimes qui nous influencent beaucoup et que nous influençons. Il y a des amis, il y a les voisins, il y a le prochain, des amis de niveaux différents. Mais nous avons commencé à la fin du message de la semaine passée, à parler des qualités qui caractérisent une vraie amitié profonde. Et nous les tirons essentiellement du livre des Proverbes et d'autres passages de la Bible aussi. Si vous vous rappelez, nous avons dit que la première qualité, c'est l'intimité. C'est l'intimité, la proximité. Non pas géographique, mais social, émotionnel. Ok? Et nous avons lu ce verset qui nous dit, Des camarades nombreux peuvent faire le malheur de quelqu'un, mais un ami vrai est plus proche qu'un frère. Un ami vrai est plus proche, la proximité, d'autres versions disent attaché, mais les deux sens d'une fidélité, mais aussi d'une proximité, d'une intimité sont là. Si tu as un vrai ami, c'est quelqu'un que tu as laissé entrer vraiment dans ta vie. Tu t'es confié à lui, il se confie à toi, et vous êtes entré vraiment dans la vie. Ses soucis, ses préoccupations, ses priorités, tu les connais. Tu les vis avec lui. Maintenant, ce sont tes soucis aussi. Il y a une telle proximité, une telle intimité. Donc maintenant, on veut procéder à la deuxième qualité d'une amitié véritable et intime, et c'est la constance, la constance ou la loyauté. Ça, vous pouvez comprendre par l'essence d'une amitié, c'est d'être toujours là. En anglais, je ne sais pas, en français, je n'ai pas eu le temps de chercher, mais en anglais, nous avons une expression qui parle des amis de beau temps. Vous pouvez comprendre qu'il y a des amis qui sont avec vous si tout va bien, n'est-ce pas? Qui ne restent pas toujours avec vous. Regardez le proverbe 17:17, et nous avons le texte clé de cette qualité. Un ami aime en tout temps. Mais un frère, et il faut probablement traduire ça plutôt, et un frère est engendré pour celui de l'adversité. Parce que ce proverbe probablement n'a pas pour but de contraster l'ami et le frère, mais de comparer. Un ami aime en tout temps, et un frère est né pour l'adversité. C'est-à-dire, il est là, justement, pour le moment où c'est dur de rester avec toi. Ça va pas bien chez toi, mais il reste là. Mais l'ami, c'est la même chose. Il aime en tout temps. Le proverbe 19:4 montre un peu l'opposé. Il dit, un riche a de plus en plus d'amis, mais un pauvre perd le seul ami qu'il a. Pourquoi? Parce que quand tu deviens pauvre, ça veut dire que tes amis doivent t'aider. Récemment, j'étais avec quelqu'un qui a raconté qu'elle est allée récemment à une réunion de 40 ans de sa promotion au lycée. Vous savez, il y a parfois des promotions qui chaque dizaine d'années après, au moins le cercle d'amis intimes, certains d'entre eux essaient de se voir une fois toutes les dix années. Alors, elle est allée dans sa ville natale, loin d'elle habite maintenant, pour voir ses amis. Donc, elle était là un week-end. Et étant là, elle savait qu'il était possible qu'elle rende visite à une bonne copine qui risquait de ne pas être à la réunion, mais qui est une de ses copines à l'époque. Seulement, elle a dit, je n'avais vraiment pas envie d'aller voir cette copine. Vous savez la raison pourquoi? Elle a dit, je n'avais pas envie de la voir, vraiment pas, parce qu'elle a perdu récemment son enfant. Un ami aime en tout temps, et un frère est né pour l'adversité. Vous voyez le problème? Je ne veux pas aller te voir parce qu'il y a quelque chose de tellement dur dans ta vie, je ne veux pas partager ça. Je ne veux pas prendre part à ça. Mais la vraie amitié, chers amis, se manifeste justement
moi.
Où vous savez que aimer veut dire souffrir avec. Un ami aime en tout temps. Une qualité de l'amitié, si nous voulons être amis, être un ami, c'est cette constance qui reflète la fidélité de Dieu. N'est-ce pas? Ce n'est pas simplement l'adversité qui nous tente de ne pas être loyal envers notre ami. Il y a un autre facteur qui nous tente de l'abandonner, de le lâcher. Vous savez ce que c'est? Quand il pêche contre nous, on n'a plus envie de l'aimer. Vous avez eu un ami, et puis ce jour terrible est arrivé, où cet ami vous a fait quelque chose de pas du tout bien. Et c'est là aussi que l'amitié est bien éprouvée. Nous voyons cela dans la vie de Jésus quand à maintes et maintes reprises dans sa vie avec ceux qu'il appelle ses amis, les disciples, nous voyons qu'ils sont constamment en train de pécher contre lui. Je vous donne juste un exemple. On va pousser ça au bout. Pierre, Pierre, cette nuit, tu vas renier trois fois de me connaître. Et tourne vers les autres. Cette nuit, vous allez tous m'abandonner. Car il est écrit, on frappera le berger et les brebis s'en iront. Quand il dit Pierre, Pierre, on voit cette affection de Jésus envers Pierre, qui va le renier, qui va jurer de ne pas même connaître ce Jésus de Nazareth, qui a tout fait pour lui. Mais ce soir, il va lancer des jurons pour dire « Je m'en fiche de lui, je ne sais même pas qui c'est. » Il va le traiter comme ça. Et Jésus lui dit ce soir, « Pierre, Pierre, trois fois tu vas me faire ceci, mais j'ai prié pour toi. » Un ami aime en tout temps. Et cela inclut quand on pêche contre un ami. Un verset de plus, Proverbe 27, 10, « N'abandonne pas ton ami, ni l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. » N'abandonne pas ton ami. N'abandonne même pas l'ami de ton père, qui doit être ton ami aussi. Au jour de la détresse, de ta détresse cette fois, ne va pas chez ton frère géographiquement éloigné alors que ton bon ami est là. Parce que c'est quoi? C'est une manière de briser l'amitié. C'est une manière de dire, je n'ai pas assez de confiance en toi, mon ami, pour aller vers toi dans ma douleur. Je vais aller carrément loin d'ici, géographiquement, et chercher mon frère. Alors que c'est toi qui vis tout avec moi. C'est bizarre, n'est-ce pas, que parfois nous pouvons briser l'amitié non seulement en négligeant d'aider quelqu'un au moment de sa détresse, mais en négligeant de se laisser aider au moment de notre détresse. Et je vois ça tout le temps. Des gens qui veulent être amis, si c'est pour aider l'autre, mais qu'ils ne veulent jamais montrer un besoin, un manquement, ils ont une peur terrible d'avoir besoin de l'autre parce que ça les rend vulnérables. Ça crée un lien qui ne le veut pas, avoir besoin de l'autre. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas, en tant qu'ami, briser des amitiés par ce manque de de constance envers l'autre ou en empêchant l'autre de montrer une constance envers nous. Avoir une amitié signifie qu'on reste fidèle. Maintenant, petite parenthèse, je ne suis pas en train de vous dire que toute amitié doit être constante. Parce qu'il y a des amitiés mal choisies. Il y a des gens avec qui le livre de Proverbes dit ne liez pas d'amitié avec un homme coléreux de peur de devenir comme lui. Et si je me rends compte que cette amitié n'est pas une bonne, il ne s'agit pas de rester très intime avec une telle personne, mais de retrouver un niveau d'amitié qui correspond à la sagesse. Mais dans le cas de quelqu'un qui mérite, entre guillemets, d'être mon ami, mon bon ami, il faut montrer une constance. Et il n'y a aucun ami que vous puissiez avoir dans ce monde qui va jamais vous faire un tort. Ça, c'est le problème. Jamais dire une chose de travers. Ça n'existe pas. Vous ne l'avez pas fait pour les autres. Comment est-ce que vous pouvez attendre que les autres soient parfaits envers vous? Donc voilà cette constance qui est vraiment typique d'une amitié profonde, n'est-ce pas? Cette personne qui ne vous lâche pas. Et comme j'ai dit, c'est le reflet exact de l'Évangile que même lorsque nous étions ennemis, que le Christ est mort pour nous. Ensuite, nous avons la transparence ou la franchise. C'est la troisième qualité d'une amitié profonde selon le livre de Proverbes. Donc nous lisons le Proverbe 27:6 qui dit « Les blessures d'un ami sont loyales, les embrassements d'un ennemi sont trompeurs. » Les blessures, ça veut dire que les choses qu'on dit par franchise et transparence et honnêteté et vérité à ton ami, parce qu'il a vraiment besoin d'entendre ça. Et ça le blesse, mais cette blessure est loyale. C'est parce que vous êtes vraiment un ami proche que vous lui dites cela. Maintenant, je veux reculer juste un peu et je veux vous parler juste un moment de la transparence ou de la franchise en deux sens. Le premier sens de la transparence dans l'amitié, c'est la transparence pour révéler qui vous êtes. Et la deuxième sorte, je parlerai tout à l'heure, c'est la transparence, la franchise, pour parler de lui, de ce qu'il est. D'accord? Ok, parlons d'abord de cette transparence par laquelle je révèle ce que je suis. Il y a des amitiés qui ne vont pas loin, qui sont assez superficielles, même ce que nous appellerons des bonnes amitiés. Ces amitiés sont relativement en vérité superficielles. Pourquoi? Une raison, c'est qu'on ne se dévoile pas, on ne se confie pas. Et l'autre ne me connaît pas moi, vraiment, avec toutes mes faiblesses et mes bêtises et mes péchés. Il connaît mon CV. Il connaît ce que je veux présenter de moi. Il connaît ma page Facebook. Il connaît l'image que je fabrique et que je lui donne. Qui n'est pas tout faux. Mais ce qui est sûr, c'est que je lui montre surtout les bonnes parties. Mais dans une vraie amitié, il n'en est pas ainsi. Avec un vrai ami, je peux être ce que je suis. Il sait. Bien sûr, il ne sait pas absolument tout. Il n'y a que Dieu qui sait absolument tout. Mais il en sait assez pour que je puisse ne pas avoir honte de ce que il sait le faux et le vrai de moi, le bien et le mal. Donc ça c'est la première partie. Mais la deuxième partie, c'est que si tu as un vrai ami ou si tu es un vrai ami, tu dois aussi dire la vérité non seulement au sujet de toi-même, mais au sujet de lui-même lorsque tu le vois. Pourquoi? Parce qu'une amitié, des amitiés ne sont pas des sociétés de flatterie mutuelle. Il y a beaucoup de soi-disant amitiés qui sont comme ça. On est bien ensemble, mais tout le temps, je dis du bien de lui et que de bien. Et quand je vois des choses, la manière dont il parle avec sa femme, la manière dont elle agit avec ses enfants, je ne dis rien. Je ne dis absolument rien, jamais. Quand elle fait quelque chose de bien, je la loue. Parce qu'on est amis. Mais une vraie amitié n'est pas ça. N'est pas marcher dans le mensonge avec quelqu'un. N'est pas marcher dans la tromperie. N'est pas marcher dans la flatterie. Nous lisons, par exemple, dans le Proverbe 29, 5 que vous avez là. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pieds, sous ses pas. Lorsque vous ne faites que dire du bien et jamais des choses blessantes, vous êtes en train de tendre un filet, un piège sous le pas de votre ami. Parce que vous êtes en train de l'aider à rester ce qu'il est. À ne jamais voir la chose la plus importante qu'il a besoin de voir, c'est là où son caractère ne va pas. Parce que vous savez, les amis, que la chose la plus précieuse que vous avez, c'est votre caractère. C'est ce que vous êtes. Et si quelqu'un n'est pas prêt à vous dire là où ce que vous êtes ne va pas, alors, il ne vous aime pas beaucoup. Il se soucie plus de lui que de vous, parce qu'il ne veut pas que vous vous fâchiez avec lui. Donc, il est extrêmement important de réaliser que tout manque de franchise dans l'amitié est un manque de loyauté. Les blessures d'un ami sont loyal. Et je me souviens d'une fois où un couple dans une église où j'étais pasteur, le sujet d'un couple de leur ami est venu dans la conversation un jour. Je connaissais ses amis donc, il me relatait un problème dans leur vie que je voyais aussi, un problème important qui allait vraiment leur causer des problèmes dans l'avenir. Parce qu'il y avait un comportement avec leurs enfants qui allait diriger vers des ennuis plus tard. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous ne leur parlez pas de ça? Puisque c'est flagrant. C'est évident, évident. Et vous êtes leurs meilleurs amis depuis des années, des années. Mon amitié avec eux était relativement récente et superficielle comparée aux autres. Et ils ont dit, non, 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 non. Nous ne pouvons pas leur donner ce reproche parce que nous sommes leurs meilleurs amis. Vous voyez, c'est complètement tordu. La vérité, c'est qu'ils sont les premiers responsables de leur dire ça, parce qu'ils sont les meilleurs amis. Et ils sont les meilleurs placés pour leur dire ça, parce que ces gens savaient qu'ils les aiment, qu'ils les aimaient. Mais cet égoïsme vicieux que nous avons veut que je ne veux pas courir le risque d'être moi, la cible de votre désapprobation parce que je t'ai adressé un reproche. Et cet égoïsme doit absolument mourir. Absolument mourir. On doit penser à son bien plus qu'à ma confortabilité. Nous lisons donc dans la parole ces choses, les blessures d'un ami sont loyales, les embrassements d'un ami sont trompeurs. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que parfois on découvre qui est le vrai ami dans ta vie à la suite d'un reproche. Lisez avec moi ce verset 28-23. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Voilà un résultat inattendu. J'ai aimé quelqu'un, j'ai vu un problème grave dans sa vie, un péché grave. J'ai pris mon courage et je lui ai dit de façon très aimante, mais franc. Et vous savez ce qui s'est passé? Mon amitié est devenue beaucoup plus proche. Et vous savez, c'est par là que j'ai compris qu'il était vraiment mon ami. Et qu'il a compris que j'étais vraiment son ami. Parce que là, on fonctionnait à un niveau qui était profond. Je veux vous poser une question. Dans votre manière de réagir aux reproches que les amis vous adressent, est-ce que vous les faites sentir que vous invitez des blessures fidèles, des blessures loyales? Ou est-ce que, en réagissant, vous les faites comprendre que non, flatterie, c'est bien, dire du bien, c'est bien, j'accepte, mais ne me dis jamais un reproche ou une critique. En d'autres termes, je veux vous encourager que les vrais amis se donnent des permis de chasse. Avec moi, tu peux y aller. Sachant que dans la vraie amitié, un ami va pas te parler de toutes les petites fautes qu'il voit en toi, au grand jamais. Un autre proverbe nous dit que le vrai amour couvre beaucoup de fautes. Pas pinailler, n'est-ce pas? Mais lorsque je donne le permis de chasse à un ami sage, il sait quand il faut oublier et il sait quand il y a quelque chose de tellement signifiant qu'il faut parler. Il faut toujours remercier vos amis quand ils vous ont donné un reproche à bon endroit. Et parfois, ces reproches sont à moitié vrais, à moitié faux. N'est-ce pas? Donc, il faut trier la partie qui est vraie et puis discuter la partie que vous pensez être fausse. Ça, c'est une amitié. Voilà. Quand nous avons des amitiés comme ça, moi, je trouve que c'est vraiment la phase finale, le niveau le plus profond d'amitié, parce que c'est pas une amitié où je peux juste être moi-même, c'est ça, mais c'est une amitié où je vais devenir plus que moi-même. Parce qu'à travers les corrections de mon ami, je vais mieux me comprendre, et je vais devenir plus que je ne le suis en ce moment. Est-ce que vous avez une amitié comme ça? C'est vachement rare. Mais c'est vachement bienfaisant quand cet ami le fait avec amour ou quand vous le faites avec amour. Dans le couple, c'est indispensable. Nous arrivons au quatrième point, le tact et la prévenance. Je vais aller un peu plus vite. Les vrais amis, les amis profonds, usent du tact. Les uns avec les autres. Le tact, c'est quoi? Le tact, c'est la manière de faire de quelqu'un qui est attentionné. C'est-à-dire, avec ton ami, tu te mets tellement dans sa peau que tu sais non pas seulement ce qu'il faut lui dire, mais tu sais quand il faut lui dire cela. le tact. Et de mille manières, dans une bonne amitié, un ami montre plein de tact et de prévenance. Je vous donne juste un ou deux exemples des proverbes. Un bon ami ne s'incruste pas. Nous lisons dans le proverbe 25 et 17: « Mets rarement les pieds dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne se mette à te détester. » Vous avez tout compris, n'est-ce pas? Avec un vrai ami intime, c'est un peu différent, parce que là, c'est le prochain. Alors, avec mon prochain, je fais attention. Je ne vais pas emprunter sa remorque trop souvent. Vous comprenez pourquoi? Parce que là, il va me détester. Mais avec un ami vraiment profond, je suis chez lui beaucoup plus. Mais quand même, je sais comment ne pas m'incruster. Voilà. Cet homme célibataire qui va souvent chez une famille qui sont des amis. Est-ce qu'il a le tact de réaliser que dans une famille avec des enfants, c'est pas différent qu'entre copains célibataires? Et quand on va dans la famille, on ne reste pas jusqu'à ce qu'on vous demande de partir. Mais j'ai eu des amis comme ça. Je les aime beaucoup. Mais s'ils avaient un peu plus de tact pour réaliser qu'avec ma famille, il y a un moment où tu dis merci pour cette soirée, n'est-ce pas? Et j'ai besoin de rentrer. Deuxièmement, tact. Un bon ami réagit avec sympathie à ta douleur. Il sait comment réagir quand tu n'es pas tout à fait bien. Le proverbe 25-20, c'est enlever un vêtement par un jour de gel, répandre du vinaigre sur de la soude, que de chanter des chansons à un cœur triste. Il y a des choses qu'on ne fait pas à quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui t'est éprouvé. Et un bon ami sait avant tous les autres que son ami est triste. Il le sait tout de suite. Les autres vont arriver, ils vont chanter une chanson, mais toi en arrivant, ah, mince, il y a quelque chose qui ne va pas chez Jacques. Et tu vas montrer ce tact qui est tellement apprécié. Dernier exemple, proverbe 27-14. Quand tu es vrai ami, les expressions de ton amour ne sont pas inopportunes ou mal placées ou gauches. Elles sont bien appropriées. Ce proverbe dit, « Celui qui bénit son prochain d'une voix forte et de grand matin, celui-là est compté comme une malédiction. » L'intention est bonne. Il veut être amical. « Salut Jean, c'est le matin !» C'est une manière de dire qu'il y a des manières de manifester l'amitié qui sont très gauches. Et on se met dans la peau de l'autre et on dit, est-ce que ça va être compris comme une malédiction ou une bénédiction? Et le chrétien sage apprend de plus en plus et réfléchit dans son amitié à être quelqu'un qui évite ces actes un peu gauches. J'ajouterais un cinquième point entre là j'avais le christocentrisme, mais je dirais juste en un mot, le sacrifice est aussi une qualité d'une amitié profonde, parce que Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. J'ai lu récemment une histoire intéressante et vraie de deux soldats dans une des guerres récente, je ne sais pas si c'était en Afghanistan ou Irak ou quelque part, mais deux hommes qui se sont vraiment liés en amitié profonde pendant la guerre, qui étaient dans un endroit, je ne sais pas si c'était un bunker ou quoi, mais en tout cas une grenade a été lancée là au milieu des deux. Et l'un des deux a regardé son ami Il a regardé la grenade et il a sauté sur la grenade. Il l'a complètement enveloppé. Il a été explosé, tué, et il a sauvé la vie de son ami. L'amitié, dans sa forme la plus profonde, reflète cet amour du Christ, n'est-ce pas? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est comme ça que nous avons été pris en amitié par Jésus-Christ. Je finis en disant que la dernière qualité de l'amour, de l'amitié la plus profonde, c'est le christocentrisme. Tout ce que je veux dire par cela, c'est que ce que je vous enseigne depuis deux dimanches, tout cela ne peut pas être vraiment appris et vécu si vous n'êtes pas proche à Jésus-Christ. C'est-à-dire que j'apprends l'amitié de la manière dont Jésus-Christ m'aime en tant qu'ami. Donc c'est son amitié que je prolonge, qui me touche, qui me change et qui me donne envie d'être ami de la sorte à d'autres. Et c'est seulement en goûtant ça que je peux le comprendre assez bien pour vouloir le vivre avec d'autres personnes. Donc le vrai patron, le vrai modèle d'amitié se trouve uniquement en Jésus-Christ. Et plus je goûte et que j'expérimente l'amitié de Jésus-Christ pour moi dans tous mes torts, dans toutes mes bêtises, son amitié constante, sa proximité à moi, il est là, il partage sa vie avec moi, son tact, je dirais même, sa franchise avec moi. C'est par cela que j'apprends ce que c'est que l'amitié, que je puisse le donner à d'autres. Et ça veut dire tout simplement que dans une vraie amitié, au plus profond, il y a trois personnes et non pas deux. Il y a toi, il y a ton ami, et il y a le Christ, l'ami suprême. Nous allons chanter ensemble un chant au sujet de cette croix où Jésus nous montre sa fidélité au plus profond, cette croix qui domine tout, qui domine nos amitiés même, qui change tout, qui crée une nouvelle manière d'existence. Donc c'est dans le carnet, le numéro 36, Ô Jésus, ta croix domine. Jésus, ta croix domine les temps, les peuples, les lieux. Partout sa splendeur divine met en fuite les faux dieux. Dans les pages du Saint-Livre, les prophètes ont chanté. Ta mort qui m'a fait revivre, ton sang qui m'a racheté. Si brisé par la souffrance, je défaille quelquefois. Je renais à l'espérance, mon sauveur près de ta croix. Par les douleurs et les joies, que je sois sanctifié, puisque tu me les envoies, ô divin crucifié. Ô Jésus, ta croix domine les temps, les peuples, les lieux. Et dans ta gloire divine, bientôt tu viendras des cieux. Je vous invite à un moment de prière. Sentez-vous libre de prier.